Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers séminaristes, mes bien chers frères, l'Église vient de nous faire chanter cette louange à la très sainte Vierge Marie. Tout gloria à Jérusalem. Tu Laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes la joie d'Israël, vous êtes l'honneur de notre peuple. Et oui, c'est bien ça, c'est Notre-Dame, l'Immaculée, qui est notre gloire, notre joie, qui est l'honneur de l'Église catholique. Et je pense que, en ces jours de l'Immaculée Conception, il faut bien essayer d'obtenir cette joie surnaturelle qui est conséquence de la charité, la vertu de charité. Car il nous est indispensable, nécessaire, de nous établir dans la joie et dans la confiance à la vue du déluge, des maux qui tombent sur nous, sur l'Église, sur le monde. Et cette joie surnaturelle doit être fondée, en particulier en ces jours, sur notre amour, notre charité envers notre Sainte Vierge Marie. Nous réjouir d'abord de son bonheur. Celui qui aime se réjouit, rien que de voir le bonheur, le bien de la personne aimée. Eh bien, aujourd'hui, nous contemplons le bonheur de Notre-Dame. Son bien, sa perfection. Et c'est déjà une cause de joie pour nous. Joie aussi parce que c'est un des nôtres qui a été élevé à un si haut degré de perfection, d'intimité, de proximité avec Dieu. Et nous pouvons donc espérer d'entrer au ciel, caché sous le manteau de Notre-Dame. Et il devient aussi pour nous le modèle. C'est la créature parfaite, modèle du chrétien. Joie aussi parce que Notre-Dame, l'Immaculée, nous offre son amitié, la charité, l'amour que nous portons à une personne produit la joie dans la mesure où cette personne aimée nous est pressante. Et bien par la grâce, Notre-Dame nous offre son amitié, son intimité, qui revêt en particulier la forme de la maternité de la part de Notre-Dame, l'enfance spirituelle de notre part, ou même l'esclavage d'amour envers Notre-Dame. Mais en fait, nous pouvons vivre dans la présence de l'Immaculée. Et puis aussi, cette vérité, ces dogmes, et donc ces mystères, cette réalité de l'Immaculée Conception, c'est un rempart de notre foi. C'est une vérité qui protège d'une façon particulière les vérités de foi qui sont attaquées aujourd'hui. Celui qui confesse l'Immaculée Conception en affirmant ses privilèges, confirme l'existence de la règle générale qui est la naissance de nous tous avec le péché originel. Et par là, nous confessons aussi, en confessant l'Immaculée Conception de Notre-Dame en prévision des mérites de la Passion de notre Seigneur, de sa mort, nous confessons la divinité de notre Seigneur, son sacrifice rédempteur. Et par voie des conséquences, nous confessons la nécessité de l'Église catholique, du Christ, de la grâce. Et voilà pourquoi les papes ont vu dans ces dogmes une barrière contre le matérialisme, contre le rationalisme et même contre l'esprit anarchique du libéralisme. Et il faut avouer qu'il nous faut beaucoup de consolation, d'espérance, de force, de joie à la vue de la direction imprimée à l'Église par les hommes d'Église. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, la situation s'aggrave. Et c'est là, nous les constatons en particulier par les derniers livres écrits et actes, en particulier du pape, du préfet de la Congrégation de la foi, le cardinal Ratzinger, par exemple, le dernier livre du pape, ou la lettre Tertio Millennio, qui prépare les troisièmes millénaires. Nous sommes vraiment d'un plein modernisme. Corriger, adapter à la pensée et à la philosophie de notre époque. Et nous voyons, hélas, la pensée de l'Église influencée par la pensée gnostique. Les récits gnostiques est une des plus vieilles hérésies et des plus pernicieuses. Bien sûr, elle ne rêvait pas aujourd'hui des apparences, les formes classiques. Elle a été dépouillée de tout ce qui était un peu mythique, si l'on veut, symbolique, imagé. Mais c'est la pensée gnostique qui a influencé totalement la pensée moderne, la culture moderne. Et en voulant accorder la culture, la pensée moderne avec la foi, ces nouveaux théologiens ont introduit la pensée gnostique dans l'Église. Qu'est-ce que c'est cette hérésie gnostique ? Eh bien, c'est tout d'abord de dire qu'il y a une vérité cachée, qu'il y a un sens caché dans les mystères et dans la foi catholique. Et donc, le salut est plutôt affaire des connaissances. Il faut découvrir, il faut prendre conscience de ces sens cachés, de cette vérité cachée, nouvelle, qui n'est pas le partage de la majorité, mais seulement d'un groupe d'élus. Bien, nous voyons cette influence dans l'Église catholique. C'est cela qui permet de rejeter la tradition tout en l'acceptant. Ils nous disent, la tradition de l'Église, c'est très bien. Les vérités des fois, mais bien sûr, c'est comme cela. Mais seulement il y a un sens caché. Et nous, arrivés à l'âge parfait de raison, l'humanité, la culture moderne, les nouveaux théologiens, nous allons vous enseigner cette vérité cachée, cette doctrine nouvelle qui fera de vous des dieux. C'est à nouveau la tentation du paradis terrestre, un péché de connaissance dans ces sens, qu'Adam voulait devenir comme Dieu, en particulier sous l'aspect de la connaissance. Et en même temps, cela donne le ton, le temps subjectiviste au modernisme. Car toute la révélation consiste à prendre conscience. Prendre conscience de quoi? Eh bien, qu'on est divin. Car si on dégage l'agnosticisme de toutes les formes accidentelles, il y a toujours un fond, un noyau. Et cela consiste à dire que Dieu s'est fait, Dieu évolue, et Dieu s'est fait dans la nature, dans le monde, dans l'humanité, dans l'homme. Il n'y a qu'une seule dimension dont fait partie Dieu, la nature, le monde, l'homme. Et c'est Dieu qui est en train de se faire, de se parfaire. Et ce Dieu trouvera donc sa perfection dans une réalisation historique. Et cette pensée gnostique a revêtu, selon l'aspect sur lequel on insiste, des différentes formes qui ont produit des différents courants de la pensée moderne. Si on identifie Dieu plutôt avec la nature, c'est le naturalisme. Si avec l'esprit, c'est le rationalisme, l'idéalisme. Si avec la matière, c'est le matérialisme, le communisme, le socialisme, le positivisme. C'est avec l'homme, c'est l'humanisme. Et nous voilà plus près des caractères particuliers qui rêvaient la pénétration de cette pensée dans l'Église. C'est une espèce d'humanisme personnaliste. Et c'est justement là le péché le plus grave des hommes d'Église. Ils ont voulu accorder la pensée catholique, la foi catholique, avec ses philosophies, qui ont été donc les véhicules pour faire pénétrer dans l'Église, d'une façon sous-jacente, bien entendu, cette hérésie gnostique. Et c'est bien cela que nous trouvons dans le livre du pape. Et c'est bien ce que nous trouvons dans la lettre Tertio Millenio. Si on enlève tous les verbiages modernistes, compliqués, si on laisse de côté les contradictions et on tire les conséquences des principes affirmés, eh bien nous arrivons finalement à cette hérésie gnostique qui nous dit que nous sommes des dieux, que nous faisons partie des dieux, que la nature est Dieu, que l'homme est Dieu. Voyez par exemple, sur la vérité, sur les dogmes, hors de l'Église, point de salut. Eh bien, réponse, bien sûr, hors de l'Église, il n'y a point de salut. Mais seulement, l'Église s'identifie avec le monde. L'Église s'identifie avec l'humanité. Et donc, tout homme est uni, tout en restant dans son péché et dans l'erreur, à l'Église catholique. Il fait partie d'une façon ou d'une autre de l'Église. Notre Seigneur est Dieu. Oui, bien sûr, il est Dieu. Mais il est Dieu finalement parce que tout homme est Dieu. Alors notre Seigneur, il a pris conscience de cette réalité divine en lui. Il a pris conscience d'une façon totale. Et voilà pourquoi ce n'est plus le Verbe qui s'est fait homme, mais l'homme qui s'est fait Dieu, comme dit le cardinal Ratzinger. Et par là, notre Seigneur devient le modèle de tout homme et de l'humanité qui doit atteindre à cette plénitude de conscience, de la dignité, dignité fondée dans le caractère divin de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur, oui. Ils affirmeront la doctrine catholique, oui, mais seulement la rédemption, c'est un fait accompli. Et notre Seigneur Jésus-Christ est déjà uni à tout homme. La grâce est-elle nécessaire? Oui, elle existe, elle est nécessaire, mais elle fait partie de la nature. Nous avons tous la grâce de Dieu, dès notre naissance. Et ainsi, on pourrait suivre en expliquant les textes. Notre Seigneur est roi. Oui, mais il est le roi dans ses sens, dans un sens cosmique, c'est-à-dire qu'il est cette force convergente qui attire l'évolution du monde vers le point oméga. On revient toujours, toujours à ces principes gnostiques. Et alors inutile ensuite d'affirmer les autres vérités catholiques. Tout disparaît, tout tombe, tout est vidé de son sens. Quelle place peut avoir dans cette doctrine le péché originel, le péché tout court, la vie de la grâce, l'Église, la seule véritable Église, le pouvoir indirect et la suprématie de l'Église vis-à-vis de l'État, l'élévation si haute de Notre-Dame, tout cela n'a plus de sens. Voilà, à mon avis, la doctrine sous-jacente dans ces nouvelles formes de modernisme et qui nous montre la gravité de l'heure. Mais cela ne doit pas nous décourager, au contraire, il faut redoubler notre esprit de combat, notre esprit de foi. Et il nous faut surtout demander à Notre-Dame la fidélité à la foi, de devenir plus fidèle à notre foi, de vivre plus profondément des vérités de notre foi, lui demander la fidélité à l'Église et donc la fidélité à la fraternité, puisque nous, nous sommes hantés dans l'Église, dans notre ministère, précisément par la fraternité. Fidélité qui n'est pas toujours facile. Nous voyons des confrères qui nous quittent presque régulièrement. Il faut donc bien réfléchir et s'engager avec cet esprit de loyauté, de fidélité. Nous avons donc contempler l'Immaculée, elle qui est ces toisons qui attire sur la terre la rosée céleste, elle qui est cet arc-en-ciel qui a été établi par Dieu comme signe de sa bienveillance. Dieu a placé Notre-Dame et c'est en la voyant qu'il sera apaisé et qu'il pardonnera. Notre-Dame est vraiment l'arbitre de la paix entre le ciel et la terre. nous devons contempler et fonder notre joie, notre espérance sur cette femme revêtue du soleil, ayant la lune sur ses pieds, une couronne des 12 étoiles sur sa tête. Revêtue du soleil, c'est-à-dire revêtue de la divinité, environnée, recouverte de la divinité, parce que Notre-Dame a plongé dans les abysmes de la divinité. Elle a eu une union la plus parfaite que l'on peut avoir en dehors de l'union hypostatique avec Dieu. Voilà pourquoi elle est revêtue de la divinité. Elle a la lune sous ses pieds, c'est-à-dire l'Église. Notre-Dame a été placée entre Dieu et l'Église, entre le Christ et l'Église. Et les 12 étoiles signifient les principaux privilèges des natures, des races, des gloires de Notre-Dame. Les principaux privilèges du ciel qu'elle a reçu dans son corps, dans son cœur. Demandons donc en ces jours à l'Immaculée Conception, au cœur immaculé de Marie, de nous donner cette force, cette joie dans les combats, afin de faire face à ceux qui devraient soutenir à l'Église et au contraire la frappe, à ceux qui devraient l'éclairer et qui répandent les ténèbres. Et demandons donc en ces jours, en particulier à l'Immaculée Conception, les grâces nécessaires pour les membres de la Fraternité Saint-Pie-X, les grâces nécessaires pour rester fidèles tout le long de notre vie et de notre ministère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers séminaristes, mes bien chers frères, cette fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ est un des mystères les plus grands de notre foi. Et c'est le mystère le plus doux de notre foi. Le mystère le plus grand, parce qu'il est la manifestation éclatante de l'incarnation du Verbe de Dieu. Et le mystère le plus doux, parce qu'il nous manifeste d'une façon particulière l'infini amour de Dieu pour les hommes, sa miséricorde, sa bonté. C'est donc une parfaite synthèse, ces mystères de Noël, des vérités contenues dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et ces mystères nous sont magnifiquement exposés par l'apôtre Saint Jean dans l'évangile de ce dimanche, dans l'évangile de cette messe, qui est le prologue de l'évangile de Saint Jean, où il nous montre la triple naissance du Verbe incarné, la triple naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que célèbre l'Église, dans les trois messes du jour de Noël, cette triple naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance éternelle, sa naissance temporelle, selon la chair de Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, à Bethléem, et sa naissance spirituelle dans les âmes. Et l'apôtre Saint Jean nous parle donc de cette triple naissance dans son prologue. Et tout d'abord, à différence des autres évangélistes, il s'élance tout de suite vers Dieu, l'origine de ces mystères. Et il contemple la génération du Verbe dans le sein de la Trinité. Il proclame d'abord la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe, et il était auprès de Dieu, et il était Dieu. Car cet enfant que nous contemplons aujourd'hui, c'est bien Dieu. Et c'est la première des leçons de ces jours de Noël. Nous devons nous approcher toujours de notre Seigneur avec foi, en reconnaissant, en adorant sa divinité. Car s'il est devenu homme, s'il a pris une humanité comme la nôtre, s'il s'est fait chair, il est toujours resté Dieu. Il est toujours le Verbe de Dieu, consubstantiel au Père, coéternel avec lui. Et ensuite, l'apôtre nous montre la naissance, selon la chair, dans les temps, de ces Verbes incarnés. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et nous l'avons contemplé plein de grâces et de vérités. Et en particulier dans ces mystères de Noël, apparaît le caractère propre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celui des sauveurs et des prêtres. Car il est venu nous apporter le salut, la lumière et la vie, la vérité et la grâce, afin que de sa plénitude, nous recevons tous, et grâce sur grâce. C'est donc bien pour nous sauver qu'il est venu. Nous le disons dans le Credo. Propter nostram salutem. C'est à cause de notre salut qu'il est venu dans le monde. C'est à cause de notre salut qu'il est né. Le Fils de l'homme, dit notre Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Saint-Luc, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver. Voilà la miséricorde de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Voilà les paroles de l'Évangile. Cet enfant que nous adorons, qui est Dieu, est venu pour nous sauver. C'est là la mission essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pourrions dire que cet aspect des sauveurs, des prêtres, des pontifes, qui rétablit les liens entre le ciel et la terre, qui avaient été brisés par le péché, c'est le caractère essentiel de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus encore que sa royauté, qui se manifeste pourtant dans sa naissance. Et afin de nous donner la vie éternelle, de nous délivrer du péché, de l'erreur, de l'ignorance, afin de nous donner la vérité et la vie, notre Seigneur nous transmet la grâce sanctifiante. Et c'est là la troisième naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, il naît dans son Église et dans nos âmes par sa grâce. C'est le grand moyen pour nous sauver et nous faire participer à sa divinité. Saint Augustin a ces mots si admirables. Deus factus est homo, ut homo fieret Deus. Dieu s'est fait homme pour faire de l'homme Dieu. Et il réalise cette œuvre de déification de notre âme, donc vraie participation à la nature de Dieu, vraie union avec Dieu, par la grâce, par la vie surnaturelle, par l'or surnaturel. Et dans ce sens, ce mystère doit nous donner la grâce d'apprécier, de désirer, de demander sa grâce. De lui demander de nous guérir de nos misères et de nos péchés. Et notre Seigneur est puissant et plein de bonté pour nous accorder cette vie divine, cette vie surnaturelle. Et l'apôtre Saint Jean nous dit aussi que la lumière a resplendi dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Il est venu chez lui, dans son peuple, et ils ne l'ont pas reçu. Hélas, je pense que nous pourrions répéter ces paroles aujourd'hui. La lumière resplendit toujours, mais les ténèbres n'en veulent pas, car cela mettrait en évidence la méchanceté de ses œuvres. Le monde ne veut pas recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce et son salut. Et même, je dirais, dans ces Noëls, il vient chez les siens, et les siens ne le reçoivent pas. Et c'est là la raison de la crise dans l'Église. Le monde, depuis la Renaissance, refuse, en particulier, l'ordre surnaturel. La race, la vie surnaturelle, le surnaturel. Et toute la pensée moderne est imprégnée de ces refus du bienfait par excellence, du don par excellence, que notre Seigneur a conquis au prix de son sang. Parce que l'homme est aujourd'hui autosuffisant, autonome, indépendant. Il n'a plus besoin de la grâce de Dieu, tant qu'il n'a plus besoin de Dieu. Et cet esprit du monde est pénétré dans l'Église, parce qu'ils ont voulu concilier l'Église et le monde. Et alors cet esprit s'est introduit et dans la liturgie, et dans la théologie, et dans l'exégèse. Je pense que nous pouvons dire que l'un des problèmes essentiels de la crise dans l'Église aujourd'hui, c'est la négation implicite du surnaturel, l'adultération de la notion de la grâce et de l'ordre surnaturel. Par exemple, toute la nouvelle exégèse qui est enseignée, hélas, à Rome, dans les universités pontificales, est fondée sur la négation, a priori, de la possibilité même du surnaturel. Donc des catholiques qui font de l'exégèse, interprétation de l'Écriture sainte, son explication, ayant comme présupposé la négation et même la possibilité du surnaturel. Évidemment, cela détruit totalement l'Écriture sainte. La nouvelle théologie est aussi fondée sur l'adultération de la notion du surnaturel. Et alors, n'étant plus nécessaire la grâce, alors n'est plus nécessaire non plus l'Église. L'Église non plus. Puisque c'est une société surnaturelle qui a pour but de nous donner la grâce et de nous conduire au ciel. Et alors on pervertit la notion même d'Église. Et alors il apparaît dans l'Église toutes les sortes de faux messianismes, toutes sortes de faux messianismes, c'est-à-dire des réalisations du royaume de Dieu sur cette terre, car il n'y a plus d'esprit surnaturel. Et si tout homme a la grâce, déjà, alors l'Église n'est pas nécessaire. Et alors la société aussi, et le monde, ne doivent pas se subordonner à l'Église. Il n'y a pas un ordre naturel à subordonner à l'ordre surnaturel, puisque le surnaturel n'existe plus. Et alors on détruit aussi le sacerdoce de notre Seigneur et son sacrifice et le Saint-Sacrifice de la Messe. Et finalement, on s'est conduit à nier le caractère de sauveur de notre Seigneur. Si on touche au surnaturel dans l'Église, tout s'écroule. Alors, quant à nous, nous devons nous approcher de la crèche dans d'autres dispositions, dans des dispositions de foi, d'adoration, d'humilité, de confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est digné de venir homme comme nous, afin de nous rendre visibles le Dieu invisible, en s'adaptant dans cet ordre-là à notre faiblesse. Mais plus que ça, il a voulu devenir un petit enfant, afin de ne pas rebuter personne. Il n'y a rien de plus doux que l'enfance. Mais s'il a voulu aussi nous donner sa mère, Notre-Dame est associée intimement au mystère du Christ, au mystère de l'incarnation, au mystère de Noël. Elle est associée intimement à ces trois naissances de notre Seigneur Jésus-Christ, à ces trois vérités. Car si cet enfant est Dieu, Notre-Dame est la mère de Dieu. Si cet enfant est le sauveur, Notre-Dame est la cause de notre salut. C'est parce qu'il est le souverain prêtre que Notre-Dame sera corps rédemptrice. Et il collabore aussi intimement avec notre Seigneur pour nous octroyer la grâce, la vie surnaturelle. C'est elle qui a reçu cet office d'appliquer les grâces, de distribuer les grâces aux âmes. Elle est trésorière, médiatrice de toutes les grâces. Elle coopère donc ainsi à notre salut et, pour ainsi dire, à terminer ce mystère de l'incarnation et des Noëls dans nos cœurs, dans nos âmes. Car si Dieu a voulu rester dans les tabernacles, et cela c'est une sorte de continuation de l'incarnation, s'il a voulu, pour ainsi dire, incarner sa vie divine et sa grâce dans les sacrements, il veut surtout demeurer dans nos cœurs. Eh bien, c'est Notre-Dame qui prépare notre âme et qui engendre à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ et les fait naître dans nos âmes. En méditant donc devant la crèche en ces jours, renouvelons nos dispositions de foi, d'adoration. Et puisque nous sommes morts au péché dans le Christ et nous avons été vivifiés avec lui, eh bien, abandonnons le vieil homme avec ses œuvres et ses péchés. Demandons en particulier à notre Seigneur Jésus-Christ, à ses divins enfants, de guérir nos misères, de nous délivrer de nos péchés, de nous éclairer de sa lumière, de sa sagesse, et de nous conduire ainsi jusqu'à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.